Ça sert à quoi? Est-ce que ce serait pas une tendance du monde? Est-ce qu'on n'exagérerait pas un peu? Et puis c'est bien beau d'en parler, mais concrètement, ça veut dire quoi pour nous? Quand on voit les gâchis qui se font, qu'est-ce que ça change que nous, on agisse différemment? Et puis, au fait, c'est quoi le rapport entre l'écologie et la foi? C'est quoi le rapport entre Jésus et l'écologie? Jésus, il semble qu'il nous ait dit de faire des disciples, pas de l'écologie? Point d'interrogation. Et on pourrait continuer encore la liste des questions, je pense, pendant longtemps. Et ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à quelques éléments de réponse qu'on peut trouver dans les Écritures, dans la Bible et dans les deux textes que nous avons lus. Le premier texte, c'est le premier chapitre de la Genèse qu'Héléna nous a lu au début. Les trois premiers chapitres de la Genèse, les trois premiers chapitres de la Bible nous donnent des informations précieuses sur, on pourrait dire la volonté de Dieu, hein, la volonté de Dieu pour la terre, pour l'homme. Ce texte n'a pas de vocation scientifique, il n'a pas vocation à tout dire, à tout expliquer. Ce n'est pas non plus un récit historique sur comment se sont passées les choses exactement, mais c'est avant tout un texte chargé de sens, un texte théologique, un texte qui parle des liens entre Dieu, Dieu le Créateur, la terre, la création, et nous, les êtres humains, les créatures. Et ce qui est aussi important à retenir, c'est qu'on se trouve dans ces deux premiers chapitres de la Genèse avant ce qu'on appelle la chute. La chute, la rébellion de l'humanité face à Dieu, une humanité qui a voulu devenir elle-même créateur, elle-même faire un putsch, non réussi, mais les conséquences sont quand même dramatiques, et on le voit encore aujourd'hui. Le deuxième texte, on se souvient, lu par Adam et Héloïse, c'est un psaume, un chant, un poème, comme il est dit à la fin. Et j'aime beaucoup les psaumes parce que c'est un livre qui parle de toutes les émotions humaines. La joie, la tristesse, la reconnaissance, la colère, la paix, la violence, le courage. Au-delà d'exprimer les mots quand nous n'en avons plus, quand l'émotion est trop forte, souvent celle de la tristesse, souvent celle de la peur, mais aussi la joie des fois, les psaumes peuvent nous donner des mots, parler à notre place. Et ce psaume 104 qu'on a lu reprend en fait les grands thèmes Genèse 1, du premier chapitre de la Genèse. Mais il les raconte au passé. La Genèse, elle nous immerge dans un monde lointain, elle nous plonge dans ce monde comme si on y était entouré, un petit peu comme dans un récit de science-fiction, alors que le psaume nous invite à nous en souvenir. Parce que nous souvenir de cette création, de la création de Dieu, eh bien, ça nous permet aujourd'hui de le célébrer, de chanter et de se réjouir. Alors, comment est-ce que ces textes peuvent nous aider à répondre à cette question, une église verte, pourquoi faire? Eh bien, il nous donne trois pistes en nous parlant de l'homme, de l'être, en nous parlant de Dieu et en nous parlant de notre espérance. Vous vous souvenez peut-être qu'au XVIIIe siècle, un certain Jean-Jacques, pas Goldman, hein, mais Rousseau, avait dit « L'homme n'est bon et heureux, et c'est la société qui le corrompt et qui le rend malheureux. » Ce à quoi certains chrétiens, notamment en s'appuyant sur Calvin, Jean Calvin, avaient rétorqué en disant l'homme naît mauvais et pécheur, et c'est lui qui corrompt la société. Eh bien, à la lecture de 1, le texte que nous avons lu tout à l'heure, il semblerait que Rousseau n'ait pas tout à fait tort. Il ne dit pas tout non plus, hein, mais dans notre façon de voir et de vivre notre foi et l'écologie aujourd'hui, c'est intéressant de se souvenir que Dieu a créé l'être humain. Le texte qualifie toute la création, tout ce qu'il crée, la terre, les cieux, les astres, de bon. Et il ajoute le qualificatif très, très bon quand on en vient à parler de la création de l'homme. Pour paraphraser Rousseau, je dirais peut-être que l'humanité est née très bonne, mais qu'elle se corrompt elle-même en tant que société et humanité loin de Dieu. Et puis on peut ajouter à cela le fait que Dieu crée l'humanité en image de lui-même. Non pas parce que nous serions comme lui, mais parce qu'il fait de nous, ces créatures, ces images, quelque part pour le refléter lui sur la terre, pour agir par, on pourrait dire, par représentation. Et parce que nous sommes ces images sur terre, eh bien on a la capacité, le pouvoir de le représenter et d'agir avec ses prérogatives, comme nous l'a rappelé Mona tout à l'heure. Dieu crée la terre, il crée l'humanité pour profiter, prendre soin de cette belle terre. Et vous avez d'ailleurs peut-être vu ces images splendides de ce lever de terre que les astronautes de la NASA ont publié il y a quelques semaines. On voit il se passe derrière la Lune et on voit un magnifique lever de terre. Et c'est un spectacle incroyable qui nous rappelle combien l'œuvre de Dieu est belle. Et c'est d'ailleurs tout l'objet du psaume. Nous rappeler combien la création est belle et que la responsabilité de sa préservation est la nôtre, à chacune, à chacun. Alors on se pose parfois cette question, un peu existentielle, à quoi est-ce qu'on sert en tant qu'être humain ? À vivre ? Oui, mais c'est un peu une réponse suffisante hein, face à France. On se demande aussi à quoi ça sert d'être chrétien ? À quoi ça sert de suivre le Christ, aujourd'hui encore, en 2026 ? On pense peut-être à beaucoup de belles choses, peut-être à notre sécurité, à notre bien-être, à notre salut. Et comme le titrait un colloque théologique récemment, qui dit « Sauver, oui, mais de quoi ?» Et en relisant ce texte hein, de la Genèse dans une perspective créationnelle, perspective écologique, eh bien on se rend compte que quelque part, dans ce monde, la responsabilité de l'être humain, c'est de prendre soin de ce monde, soin de tout ce qui s'y trouve, mais aussi mon prochain, mon prochain différent, mon prochain violent, mon prochain qui me dérange, mon prochain qui ne m'aime pas. Et notre responsabilité écologique, elle est bien plus large finalement que de réfléchir au recyclage, même si c'est important. Alors, assez parlé sur l'homme, parlons sur Dieu. Qu'est-ce que ces textes viennent dire sur notre Dieu ? Ce Dieu, comme le psaume le dit, si grand, infiniment grand. Un Dieu dont on peine à dessiner les contours, à comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que l'humanité est au centre de l'amour de Dieu. Nous sommes, nous ici, à Cannes, en 2026, au centre de l'amour de Dieu. Toute la terre a été créée pour nous. Pas simplement comme un jardin à entretenir, comme une tâche à effectuer pour s'attirer les faveurs de Dieu, mais davantage comme un jardin pour nous, qui nous profiterait, qui serait entièrement conçu, designé, comme on dit, pour l'être humain. Et le psaume vient rajouter cette notion de grandeur, de puissance, puissance de Dieu, hein, d'un Dieu qui maîtrise finalement tous les éléments naturels, puisqu'il en est le créateur. Alors, on pourrait dire, oui, mais finalement, ne s'est pas fait avoir par sa création. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans Matrix, vous savez, où les robots, création des hommes, pouvoir sur les hommes, les asservissent, ou comme dans la planète des singes, ou dans l'histoire récente et réelle de la création de la bombe atomique. Einstein ne pensait pas que Oppenheimer irait jusque-là. Oppenheimer lui-même ne pensait pas que son gouvernement irait jusque-là. Mais dans le cas de l'histoire entre Dieu et sa création, il y a un événement majeur qui s'est produit. On l'a dit au début, la rébellion de l'être humain. Un être humain qui a voulu se prendre pour Dieu. Là encore, le texte ne nous donne pas beaucoup de détails, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en devenant orgueilleux, l'être humain a lui-même provoqué le retrait de Dieu. Et dans le chapitre 3 de la Genèse, il y a une expression intéressante qui dit « Dieu marchait dans le jardin ». Dire que Dieu était présent, pas totalement, comme s'il ne vivait pas là, mais présent de façon importante. Et finalement, la rébellion de l'homme consiste à mettre Dieu dehors, en dehors de ce jardin, en dehors de la création, comme si l'être humain s'accaparait la création. Mais Dieu n'est pas impuissant. Il aurait pu facilement mettre un terme à ça, mais il a créé l'être humain libre. Libre de réfléchir par lui-même, capable. Dieu n'a pas créé des robots comme l'homme dans Matrix. Et quelque part, aujourd'hui, toujours en 2026, l'homme met toujours Dieu de côté. On le voit, que ce soit dans la violence, dans l'égoïsme, dans la poursuite de la richesse au détriment des autres, dans le racisme, dans le mépris de la création, dans ce je m'en foutisme ambiant qui amène à des décisions et des comportements catastrophiques sur l'environnement. Et là encore, on pourrait se dire, mais quel rapport avec la foi ? Eh bien, parce que le mauvais impact sur l'environnement, eh bien, il est étroitement lié avec le mauvais impact social, économique, l'impact sur les personnes. Et l'homme ne met pas seulement Dieu de côté, il ne met pas seulement la création de côté, il se met aussi lui-même de côté. Mais ce qui est fou avec Dieu, et Diego en a parlé un petit peu dimanche dernier, la folie de Dieu, c'est qu'il soit quand même, c'est que malgré notre rébellion, il est quand même venu nous tendre la main pour la réconciliation, pour nous offrir quelque part une seconde chance. Et en parlant de seconde chance, c'est difficile en écologie chrétienne de ne pas parler de notre... Pour faire sans espérance, ça ne mènerait nulle part. Cette espérance, on peut la voir comme un événement futur, mais c'est aussi notre passé. Et je m'explique avant de tomber dans Retour vers le futur. Si Dieu a créé le monde pour l'homme, c'est par amour pour l'homme. Et par amour pour l'homme, Dieu voulait de lui au point de devenir semblable à lui-même. Ce qu'on appelle l'incarnation. Et je me souviens qu'à la faculté, on aimait bien dire la venue de Jésus, c'est pas un plan B. Et c'est ça qui est extraordinaire. L'amour d'un Dieu qui, malgré la rébellion de ses créatures, eh bien, est quand même venu sur terre. Est quand même devenu lui-même un être humain. Et c'est la plus belle preuve d'amour de Dieu. Mais tout ça pour dire que cette rébellion, elle est placée entre crochets. Ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est une éternité que Dieu passe sur terre avec nous. Mais comme ça, au début, la seule différence d'avant et d'après cette parenthèse, ces crochets, eh bien, c'est que Dieu est devenu entre-temps homme. Et cette affirmation a beaucoup de conséquences pour nous dans notre façon de voir l'écologie, parce qu'on vit dans l'espérance d'une terre renouvelée, d'une vie en présence du Christ. Et comme ça, on évite à la fois le défaitisme, de toute façon, ce monde est fichu, il court à sa perte, il n'y a plus rien à faire. Et puis à la fois, je dirais un absolutisme, on serait un petit peu comme, vous savez, Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent. De toute façon, c'est impossible d'y arriver, mais on le fait, on se bat. Et prendre conscience du but de la création et des conséquences du retour. Et ainsi, à la suite du Christ, lui qui est l'homme parfait, eh bien on peut, avec les limites que l'on a, mais aussi la capacité, on peut prendre soin de l'environnement, prendre soin de notre vie et prendre soin les uns des autres. Et pour conclure, je vous propose quelques affirmations, questions sur le rapport entre l'écologie, Dieu et nous, et des questions qu'on peut emmener chez nous, qu'on peut méditer. L'Évangile est une bonne nouvelle, celle de la venue du Christ. Notre Sauveur est celui qui annonce une vérité plus grande encore, son retour parmi nous, un retour dans lequel la terre renouvelée sera parfaite et le comportement de l'homme sera très bon. La bonne nouvelle de l'Évangile nous invite à prendre soin de notre environnement, notre planète, parce que nous sommes les images, les représentants de Dieu sur terre. L'Évangile et la réalité malheureuse de ce monde nous invitent à continuer à réfléchir au lien entre écologie et pauvreté. La réalité est là, elle est frappante, hein. L'humanité et les églises ne peuvent rester silencieuses. Il ne faut pas seulement convertir les gens, mais il faut avant tout prendre soin des êtres humains et de leur environnement. Et enfin, le Christ nous invite tout de même à respecter l'autre et ne pas rentrer dans un système de loi. Hein, il faut être végétarien, il faut rouler à l'électrique, et on peut continuer la liste, il faut. On ne rentre pas dans un système de loi, ni dans un système du mérite. Je suis meilleur chrétien parce que je fais telle ou telle action écologique. Même en écologie, l'amour doit rester au centre. Alors ensemble, allons dans cette aventure d'une église verte, d'une église écologique, d'une église accueillante envers tous, d'une église aimante, d'une église qui veut prendre soin de l'autre et qui veut prendre soin de l'environnement, avec ses limites, mais aussi ses capacités dans les grands projets comme dans les petites choses. Amen.